Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Alors, ce qu'est-ce qu'on déguste, nous vous le proposons depuis le restaurant Les Saveurs d'Aubin. C'est un petit restaurant qui paye pas de mine, qui est situé côté Ville-Bourbon, la rive gauche de Montauban, de l'autre côté du Pont Vieux. Quand vous êtes à Montauban, vous cherchez le musée Ingres. Le musée Ingres est juste adossé ou accolé à ce très vieux pont qui est le Pont Vieux. Vous traversez le Pont Vieux, vous descendez direction la gare. Et vous prenez légèrement sur votre gauche, juste avant la piscine bien connue qui s'appelle Nautica. Sur votre gauche, vous avez Les Saveurs d'Aubin. 20 mètres carrés, une cuisine afro-antillaise et vous allez voir que c'est tout petit pour faire un restaurant, mais le restaurant d'Aubin va beaucoup plus loin que ces petits 20 mètres carrés-là de Ville-Bourbon, puisqu'il vous propose de la cuisine à domicile. Et ça, on va le voir avec lui pendant toute cette émission. Spécialité afro-antillaise, donc nous sommes aux Saveurs d'Aubin avec Pascal Olivier. Salut Pascal.
Salut à tous.
Avec Georges Bonfils. Salut Georges.
Bonsoir tout le monde.
Et avec Christophe Boris. Salut.
Bonsoir.
Petit clin d'œil à Gaël qui n'est pas des nôtres ce soir. Aurélien s'occupe de la régie. Finalement, tout va bien. Nous levons nos verres déjà à Aubin qui nous reçoit chez lui ce soir. Bonjour Aubin.
Bonjour.
Merci de nous recevoir.
Mais c'est moi qui vous remercie pour votre présence.
Et on trinque avec un punch au gingembre. Donc on a abandonné le gros rouge qui tâche et on est dans des saveurs exotiques. Punch au gingembre, et là-bas il y a sans alcool, mais personne n'y a touché encore, mais ça va venir. Une boisson avec des fleurs d'hibiscus, de la mangue,
et du litchi.
Et du litchi.
Alors, c'est qu'est-ce qu'on déguste? J'espère qu'on vous avait bien mis l'eau à la bouche. Ça démarre évidemment en musique, une petite programmation en
style Afrobeat ce soir.
Yes,
on part en Afrique. Akoya Afrobeat Ensemble.
Chin chin.
Américains, ils prennent la relève de Fela, on en parlera tout à l'heure. C'est Akoya Afrobeat Ensemble avec le morceau Pelotera. Oh
Nous sommes donc à Montauban, aux Saveurs d'Aubin, 96 avenue Aristide Briand. Il est écrit sur la vitrine et sur la carte de visite, spécialité afro-antillaise. Pascal, petite explication.
C'est quoi est-ce que l'afro-antillais ? Ben c'est le règne des épices, des saveurs épicées, mélangées, du sucré, du salé, donc du sucré avec de l'ananas, avec du litchi, de la mangue, plein de choses comme ça, et des épices qui envoient. Le gingembre, le piment, bien entendu, le tamarin, les cacahuètes, des choses comme ça, tout ça mélangé avec beaucoup de poissons. Des crevettes, le fameux capitaine. Tu nous expliqueras tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le capitaine. Parce que le capitaine, ça regroupe plein de poissons différents, à la fois d'eau de mer et d'eau douce. Des crevettes.
C'est le capitaine Cook.
Ad hoc.
C'est le capitaine Ad hoc.
Ah bon. Hein,
avec le fameux whisky Loch Lomond. Donc plein de choses comme ça, avec beaucoup de légumes aussi, des légumes.
Des légumes du soleil.
Des légumes du soleil, donc des gombos, des christophines. Non, c'est pas des légumes, ça, la christophine. Non, plein de choses comme ça.
Il y a peu, finalement, de restos afro-antillais. Alors, dans la région, on va dire, il faut aller dans les grandes villes. Si tu vas sur Toulouse, tu as tout ça. Mais dès que tu es dans des petites villes, alors je sais pas bien à Rodez ou à Albi, s'il y a des choses. Mais même à Montauban, 60 000 habitants, il y a pas grand chose à part les saveurs d'Aubin aujourd'hui. Il y a eu quelques restos africains, mais ce qui n'ont jamais tenu très longtemps finalement. Et c'était africain, c'était pas afro-antillais.
D'accord.
Il y a eu du réunionnais, il y a eu de l'antillais, il y a quand même très longtemps.
Les Antilles, c'est où les Antilles, Pascal?
Les Antilles, c'est dans le golfe du Mexique, c'est en face de l'Amérique du Sud et de la Floride.
Non, mais c'est important de le préciser parce que bien souvent on dit cuisine réunionnaise ou cuisine
antillaise,
c'est la même chose.
Réunion,
mais la Réunion, c'est au-dessus
océan,
de Madagascar,
océan Indien.
Donc on parle d'un truc qui est à chaque bout de la planète.
À 10 000 km.
C'est ça qui est extraordinaire. Oui, mais nous.
L'Antille, c'est la Martinique, la Guadeloupe.
Nous, tu sais comment on fait au bain, on dit putain, c'est les Noirs, on comprend. Ils se ressemblent tous comme les Chinois. Voilà, qu'est-ce qu'on déguste en direct non, pas en direct, mais depuis les saveurs d'Aubin. Alors Aubin, on fait connaissance. Ça fait quoi un peu plus d'un an que t'as même pas un an aussi.
Un an ici, moi. J'ai ouvert ici.
Et six mois. Un an et six mois.
Oui, j'ai ouvert les saveurs d'Aubin le 23 janvier 2011.
Ouais. T'es pas du tout au départ, t'es pas cuisinier, t'es pas restaurateur, toi t'es dans le marketing au départ.
Oui, effectivement, voilà, j'ai longtemps travaillé dans la branche marketing, je ne citerai pas le nom de mon groupe qui m'a embauché, je fais pas leur publicité ce soir. je travaillais 10 ans dans la communication produit pour un grand groupe. Et en fait,
la téléphonie, c'est ça ?
Non, pas dans la téléphonie, dans le marketing, communication produit.
D'accord.
Voilà. Et au terme de ces 10 ans, j'avais vraiment envie de faire autre chose. J'avais la cuisine, c'est une passion avant tout chez moi. Voilà, je voulais faire connaître aux gens ce que je sais faire, ce que je faisais pour les amis, pour ma copine. Et aujourd'hui, je suis à fond dans quelque chose, dans une passion. Je
Donc,
pense,
en fait,
passion
c'est
métier.
C'est un peu une reconversion, quoi. Un jour, voilà, t'es dit, bon, stop, ça suffit. Je veux pas faire un burn-out, comme ça, c'est le truc, c'est le mot à la mode. Oui. Je veux pas... parce qu'on en a un peu discuté, toi et moi, un jour. Donc, je veux pas mettre en danger, finalement, ma vie familiale et ma vie privée. Je veux finir par la mettre en avant. Je veux pas la mettre en danger à cause de mon boulot. Donc,
effectivement.
Mon boulot, aujourd'hui, ne me convient plus. Parce que même s'il me fait bien vivre, il me fait bien gagner ma vie,
oui.
Il me fait pas bien vivre. Il me fait pas bien vivre mon amour et tout ce que j'ai envie de développer à côté. C'est ça.
Voilà, effectivement. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, pendant les 10 ans d'expérience qui ont été profitables pour moi, en fait, il s'est avéré que je bloquais à la fin. J'étais arrivé à un moment donné où je saturais. Je partais au travail en reculant et ça commençait à devenir pénible. Je voyais très peu ma famille. Je dormais 251 nuits par an à l'hôtel.
250 nuits par an à l'hôtel,
voilà.
Ouais, ça commence à faire.
À force, j'apercevais ma famille. Donc du coup, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire à un moment donné qui peut me rapprocher de ma famille ? Et heureusement pour moi que la cuisine, c'était une passion et que derrière, aujourd'hui, avec la cuisine, on peut tous officier dans la cuisine sans forcément être passé par une grande école de cuisine.
Ouais. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes, on n'est pas,
voilà,
pas obligé d'avoir une maîtrise.
On peut faire une reconversion facilement dedans.
Ouais. Non, puis la cuisine, c'est la science des épices aussi. Donc, c'est vraiment là où on reconnaît le cuisinier. C'est-à-dire, on peut faire un truc plat ou on peut faire un truc qui a du relief. Et la cuisine d'Aubin, elle a un relief, elle a un foutu relief.
Oui, alors, parce que avant de venir s'inviter chez toi, parce que c'est un peu ça, hein, qu'est-ce qu'on déguste quand on débarque, on s'invite, hein, à un moment, oui. on vient goûter. Alors moi, je suis venu goûter parce qu'il y a des gens qui, sur la ville, sont un peu nos papilles gustatives à nous, à Qu'est-ce qu'on déguste. Par exemple, Patrick Combalbert, qui faisait partie de l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste il y a quelques temps de ça.
Oui, mais on l'a viré.
C'est trop chiant. Il était trop chiant, Patrick. Il m'a dit, quand même, tu pourrais faire un truc avec Aubin. Viens donc goûter. Et effectivement, quand je suis venu, j'ai dit, voilà, il y a quelque chose à mettre en avant. Qui c'est qui t'a donné qui t'a transmis ça à toi, Aubin? C'est ta maman?
Effectivement, oui.
Ouais, c'est ça?
Oui, c'est depuis l'enfance. C'est-à-dire que nous, en fait, on était énormes. J'avais trois frères à la maison. Et ma maman voulait, à un moment donné, qu'on soit autonome culinairement. C'est-à-dire qu'un jour, elle s'est dit qu'on devait se marier et que d'ailleurs, on ne devait pas forcément attendre tout de notre femme.
Donc, elle était en avance un peu. Parce que...
Bravo.
Oui. Bah,
les nanas, elles ne cuisinent plus aujourd'hui. Elles ne cuisinent plus.
Elle a dit ne soyez pas comme...
Dépendant d'une femme, voilà, apprenez peut-être à faire cuire un œuf, mais derrière, ce n'est pas tout. Il faut aussi apprendre à faire cuire, apprendre à se servir d'une marmite. Donc, ce qui fait que tous les dimanches, en fait, mes frères et moi, on faisait les tours et chacun passait à la cuisine. Et on proposait quelque chose de différent.
Génial.
Non seulement à des amis de ma maman, des amis de la famille et des personnes qui travaillaient pour nous toute la semaine. En l'occurrence, des personnes qui étaient à la maison et qui officiaient chez nous. Et donc, quand on se ratait, le pire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait à se le manger toute la semaine. Donc, on s'appliquait, en fait. Et donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir comme ça que je pouvais faire plaisir aux gens. D'abord, au départ, quelque chose qui m'embêtait et qui profondément m'embêtait parce que je me posais la question de savoir mais pourquoi je prépare, pourquoi je suis obligé de préparer pour les gens.
Ah oui, au départ, c'était une obligation.
Au départ, c'était
comme
une obligation.
Ça, oui. Maison,
tu dois le faire, voilà, et tu n'en démords pas, en fait. Tu le fais, et comme tout le monde, c'est pas ton tour cette semaine. Quand c'est ton tour, tu le fais bien.
Et voilà. Mais pour les recettes, comment tu faisais? Elle te donnait des indications ou quelqu'un qui te guidait là-dedans? Non, parce que les épices, on parlera de cette assiette qui est posée sur la table là, sur lequel il y a des arachides, des piments,
du tamarin
et du gingembre. Tu nous expliqueras pourquoi tu veux parler de ces produits-là. Mais c'est pas des produits qui peuvent être manipulés ou maniés comme ça par n'importe qui. Il faut savoir doser tout ça. Comment tu fais ça?
Non, c'est-à-dire que d'abord, on commence par regarder la personne faire. C'est pas.
T'as regardé ta maman?
Voilà, je regardais ma maman faire, je regardais mes tatas faire aussi. Et puis derrière, j'étais assez curieux déjà parce que, contre toute attente, en fait, je voulais toujours faire plaisir aux gens par la nourriture, en fait, faire des choses qui font rire les gens. Je sais que la nourriture, ça a toujours fait plaisir, ça a toujours réuni les gens. Et j'avais appris que, déjà, le piment, en fait, comment l'utiliser, comment le mettre, en fait, dans un plat sans qu'il n'explose, des petits secrets un peu de grand-mère, petites choses qu'on apprend tout le temps. Et parti comme ça, en fait, c'est devenu une passion au fur et à mesure, au fil du temps. Et j'ai commencé à marier à un moment donné les saveurs, commencer à connaître aussi les saveurs d'ailleurs.
Tu te rappelles de cette époque-là, d'un plat dont tu as été particulièrement fier quand tu étais enfant?
Oui, mais en parler aujourd'hui, c'est un plat en fait qui est un peu aujourd'hui mis un peu sous la sellette. C'est-à-dire que c'est un plat à base de l'huile de palme. Et on sait que l'huile de palme est un peu trop contestée.
Ouais. Voilà, ça fait rien.
Dans ma langue, en fait, ça s'appelle du nyembwe. C'est un plat en fait que chez nous les Mienais, c'est mon origine au Gabon, on le fait avec du poisson. Donc c'est une sauce qu'on extrait de noix de palme, qu'on fait revenir, qu'on fait bouillir, on enlève toute la partie grasse et on fait une sauce avec du gingembre, du folon qui est un légume en fait. Et qu'on découpe en petit, mais c'est très 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 bon. C'est voilà, même si on te dit que ça c'est nuisible, tu peux pas t'empêcher de vouloir le manger.
Mais surtout quand t'es petit, c'est quoi dans les goûts? C'est quoi? C'est sucré? C'est quoi?
Non, c'est du salé en fait.
C'est du salé,
mais c'est mélangé avec des saveurs différentes, tellement de parfums. Et c'est une sauce en fait qui garde la texture et le goût de chaque aliment en fait. C'est ce qui est formidable dedans.
A real man.
C'est qu'est-ce qu'on déguste? On est au Saveur d'Aubin, on discute avec Aubin, c'est 96 avenue Aristide-Briand à Montauban et mon verre est vide, donc au bout d'un moment je lance un jingle parce qu'il va falloir passer à autre chose. Donc pour pouvoir à la fois remplir nos assiettes parce qu'on est là pour découvrir les Saveurs d'Aubin, on est là pour découvrir la cuisine d'Aubin, il faut nous laisser du temps et nous vous proposons pendant ce temps-là évidemment un bon morceau de musique. De jazz.
Voilà.
Vous savez faire le bon choix au bon moment.
Mais oui, Georges.
Bon choix, mesdames. Bon choix, mesdemoiselles.
Bon choix, messieurs.
Contrebassiste et compositeur, Avishai Cohen a été exposé à de multiples influences orientales et occidentales et a toujours été intéressé par plusieurs genres de musique. Le jazz, le rock, la pop, le classique, le latin, le funk, bon, toutes les musiques qui peuvent se trouver sur la terre. Né en avril 71 en Israël, Avishai grandit dans une famille de musiciens, commence à jouer du piano à l'âge de 9 ans. À 14 ans, il s'installe dans le Missouri à Saint-Louis, où il apprend la contrebasse électrique et prend des leçons de piano jazz. Son professeur lui a fait découvrir des bassistes comme Jaco Passerus et Stanley Clark, dont la musique l'inspire. En 86, Cohen et sa famille repartent en Israël, où il s'inscrit à l'Académie de musique. Après 2 ans, il joue dans un orchestre militaire, puis il revient à nouveau à New York, où là, avec d'autres musiciens de jazz, il s'intègre il étudie au Mann College et ensuite commence à jouer dans quelques groupes et rejoint le trio du pianiste Danilio Pérez, qui est un pianiste d'origine cubaine. Après une longue période de concert dans les petits clubs, Avishai rencontre Chick Corea qui lui offre un contrat d'enregistrement. Chick Corea, c'est pas n'importe quoi. En 1996, il est un des membres fondateurs du sexet de Corea Origin. Ses 4 premiers albums en tant que leader ont été publiés sous le label de Corea. Il joue dans les groupes de Corea jusqu'en 2003, année où il quitte cet orchestre et lance son propre label qui a produit depuis 6 de ses propres albums et autant d'autres artistes. Il crée le Avishai Cohen Trio dont la composition change à plusieurs reprises. Là, nous allons l'écouter maintenant dans un morceau qui s'appelle Fidiop, où on trouve toutes les influences orientales et occidentales.
Tiens, tu as bien bossé, tu as droit. Bravo! Thank you.
une composition d'Avishai Cohen, Fidiop.
Santé, vous écoutez CFM. C'est qu'est-ce qu'on déguste? On est au Saveur d'Aubin, 99, Aristide-Briand, à Montauban. On vient de... Si vous prenez le train en marche, on vient de faire la connaissance avec Aubin. Si vous avez raté le début, vous irez télécharger le podcast sur cfmradio.fr. Si je bégaye et bafouille un peu, c'est que déjà, on a fait un petit apéro avec du rhum et du gingembre. Et que là, je m'apprête à goûter...
Un kir banane verte.
Un kir banane verte. C'est pas pour rien, Aubin, que ton resto s'appelle les saveurs d'Aubin.
Voilà. Effectivement,
c'est
oui.
Que toi, tu es une sorte de chercheur, comme ça, et tu navigues dans... Voilà, t'as envie
de découvrir des recettes, parce que la cuisine afro-antillaise, en fait, c'est d'abord un mélange, c'est comme un tableau, en fait, c'est un mélange de couleurs et de saveurs. Donc, moi, j'essaye de voir, en fait, toujours proposer aux clients, en fait, les meilleurs goûts, proposer autrement, c'est-à-dire que tout peut se manger. On a vu en fait, et donc j'essaye de proposer des saveurs différentes, comme je le disais, des sirops exotiques, au lieu de proposer traditionnellement le kir mûr, pêche, cassis.
Ouais, ouais.
J'essaye de proposer ici des kir coco, kir banane verte, kir gingembre, kir ananas, kir mangue, des produits toujours portés sur l'exotisme en fait.
Alors, justement, puisqu'on est sur la boisson, là, qu'est-ce qu'on boit quand on vient au Saveur d'Aubin? Parle-nous un petit peu de ce premier cocktail qu'on a bu tout à l'heure. Il n'y en a plus, hein, moi, mon verre est vide, ça y est.
Oui, alors.
C'est le plus dangereux, celui-là, hein, c'est le plus explosif.
Effectivement, il monte très vite. C'est du rhum gingembre, en fait. Donc, c'est un sirop de gingembre avec du rhum mélangé avec quelques zestes de citron. Ça monte très vite.
Évidemment, Pascal, nous le buvons avec.
Modération.
Voilà, évidemment. J'ai besoin d'une petite explication historique, ethnologique, où le Gabon, c'est ton pays d'origine.
Le Gabon, c'est mon pays d'origine, effectivement.
La population à majorité chrétienne, musulmane, c'est comment?
Alors, le Gabon, c'est un pays catholique à la base,
ouais.
C'est laïque, catholique, voilà. Mais entre-temps, on lui porte aujourd'hui une appréciation musulmane à cause du président, en fait, qui lui derrière, avec des traités avec l'Arabie Saoudite pour le problème de pétrole, comme c'est un pays très riche en pétrole, a pris la religion, autant pour moi, musulmane. Et du coup, le président est musulman, ses conseillers le deviennent, les familles le deviennent.
Ah ouais.
Mais voilà, c'est plus le pouvoir qui prend une religion du business pour le business, en fait.
D'accord.
En réalité, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de catholiques au Gabon.
Mais donc, ça veut dire que si à l'origine, il y a donc ancienne colonie française.
Française,
hein,
effectivement, oui.
Donc, il y a aussi une culture de l'alcool, du coup, parce que la culture chrétienne, c'est aussi la culture de...
Au Gabon, on y vit énormément, c'est un pays qui vit à fond, voilà.
D'où le rhum. Qu'est-ce qu'on y boit d'autre?
Alors là-bas, on boit par contre le vin de palme. Un peu plus dangereux que le rhum.
J'ai jamais goûté ça.
La teneur en fait en alcool
est
supérieure au rhum. Voilà.
C'est le soda bis, c'est ça?
Voilà, non, c'est en fait le vin de palme. En fait, c'est un vin qui est extrait du palmier. Voilà. Donc on le couche, on le traite, en fait, on enlève les vers, parce que ce sont les vers en fait qui font qui créent en fait, si vous voulez, les parois pour faire la distillation de ce vin, voilà. Et donc ces vers sont retirés après avoir fait les parois, et après on essaye de compacter les deux côtés. Tout l'intérieur en fait fait une espèce de rentre en fait en
fermentation.
On extrait le vin dedans en fait, et ce vin en fait il est très alcoolisé, voilà.
Il est plus vrai. Plus Vous écoutez CFM, c'est qu'est-ce qu'on déguste? On est au Saveur d'Aubin à Montauban. Vous faites bien d'être avec nous parce qu'on est pas mal, on se tient bien. Hein?
Oui.
Moi je crois qu'on
est bien.
Georges, je sais pas ce que t'en penses, mais
c'est parfait.
Il me semble qu'on se tient bien. On a fait l'apéro.
On se tiendra peut-être moins bien tout à l'heure, mais là on se tient bien.
Ce que l'on goûte, c'est intéressant. C'est un kir à la banane verte.
Kir banane verte.
Quelle est la composition?
Alors, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est du vin blanc, comme un kir normal. Et avec un sirop de banane verte.
Très bon.
Voilà.
Ça
ça nous change.
Ça a vraiment c'est goût banane.
Ça fonctionne bien. Le sirop de banane verte, je vous conseille. Ouais, ça marche bien. Arrête, c'est mon verre, ça.
C'est bien parce que c'est pas trop sucré. Ça passe.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste justement, on va commencer à attaquer là, les produits de chez les Saveurs d'Aubin. Allez, à de suite. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Qu'est-ce qu'on déguste spécial ? Puisque nous sommes aux Saveurs d'Aubin, 96 avenue Aristide Briand à Montauban. Les Saveurs d'Aubin, spécialité afro-antillaise, c'est un restaurant. C'est sur place et c'est à emporter. Et vous allez voir que dans le concept, c'est aussi pas mal à emporter, c'est chez vous. Les Saveurs d'Aubin, pourquoi ? Parce que le type s'appelle Aubin, tout simplement. Ça va, Aubin ?
Oui, ça va.
Merci de nous recevoir et bon anniversaire. Je voudrais
bon anniversaire,
que tout le monde souhaite un bon anniversaire à Aubin parce que c'est son anniversaire aujourd'hui.
Bon anniversaire, Aubin.
Happy birthday, Aubin.
Merci, merci.
Tu nous as expliqué dans la première demi-heure pourquoi tu en étais arrivé à ouvrir ce resto. C'était pas du tout au départ ton boulot, hein, t'as pas fait d'études pour faire
dans la restauration,
pour faire cuistot, mais c'est ta maman, c'est ta famille, c'est tout ça, c'est ton vécu qui a fait que tu t'es dit la reconversion finalement elle est là parce que ça c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime
faire et qui en fait peut-être ne m'épuisera pas parce que j'ai toujours une envie de faire découvrir des nouvelles saveurs et je suis toujours à la recherche de quelque chose de nouveau.
Voilà, et donc on est en plein dans ta passion. Là tu nous as servi un poulet maffé.
Alors le poulet maffé, c'est une sauce avec une pâte de cacahuète, à la sauce cacahuète en fait, si vous voulez. En Afrique ou ailleurs, comment on le fait ?
C'est la grande tradition de maffé,
effectivement. Ouais. Voilà. Comment on le fait ? On prend, de l'arachide qu'on casse à l'intérieur. On grille ces graines d'arachide dans du sable chaud. Et après, on pile pour obtenir en fait cette pâte qui fait de la sauce après. Mais bon, après, ici, on peut le retrouver aujourd'hui avec en pot de jaffé. Ça nous évite un travail un peu.
Voilà, non, voilà. tu le fais pas toi-même.
Moi, je ne le fais pas comme ça, non. Je l'achète de jaffé, en fait. Mm-hmm. Et après, d'ailleurs, je fais toute la sauce, toute la technique. Donc, c'est une sauce un peu onctueuse. Ici, on le goûte, en fait, sans avoir le côté un peu pimenté qu'on retrouve partout, en fait, en Afrique.
Voilà. Normalement, le maffé, c'est aussi pimenté.
Alors,
parce que je trouve que, justement, la sauce cacahuète, là, comme ça, la sauce arachide, je trouve ça très doux, justement. Oui. C'est pas le truc qui t'arrache.
C'est pas lourd non plus.
Mais normalement, s'il fallait.
Après,
s'il fallait les manger là-bas, ça serait
pas pareil, en fait, parce que moi, je revisite des saveurs afro-antillaises. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, j'essaye de européaniser un peu ces plats, tout en gardant toujours la pointe un peu ancestrale de ce goût. J'essaye de le rendre un peu comestible pour le plus grand nombre de personnes. Voilà, c'est parce que, par exemple, la base de ce plat, on prend le piment qu'on met à l'intérieur pendant la cuisson, en fait, et on le porte en ébullition. La problématique avec le piment, c'est que quand il rentre trop longtemps en ébullition, il explose. Et quand il explose dans le maffé, ça rend le maffé piquant. Et c'est pas supportable pour tout le monde. Donc, moi, en fait.
Et toi, ce serait comme ça que tu l'aimerais ?
Moi, je l'aurais mangé comme ça. Mais après, derrière, quand on fait un restaurant pour le plus grand nombre de personnes, on ne pense plus à soi, on pense aux autres. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il faut que je mette ça comme piment ?
Alors, ça,
léger.
Oui. Alors, léger, par
ça,
contre.
C'est trop.
Parce que oui, la problématique
léger,
avec le piment.
C'est fort, hein,
je vais vous expliquer l'anecdote du piment. Ça pique à l'entrée et à la sortie.
Ah, oui.
Donc.
Ouais. Ça, vas-y, léger.
Donc,
léger.
Ça, c'est trop.
Ça, c'est trop, oui.
Ça, c'est beaucoup trop. T'en mets la moitié de la cuillère,
vraiment,
ça suffit.
Ça va comme ça.
Un tout petit peu à côté. Comme ça, après, tu peux éventuellement à chaque fois mettre les doses que tu veux si tu le sens un peu plus piquant, moins piquant.
Et ce piment, il vient d'où ?
Alors, ça, c'est du piment rouge de Guyane. Voilà, c'est du piment rouge de Guyane en fait. Et je l'ai porté.
Pardon, j'en ai mis partout.
Fondre la table.
Je fais un trou dans la table.
Alors, je ne sais pas comment il fait de Scoville.
Le fameux
piment
de Cayenne alors.
Oui, piment de Cayenne, voilà. Donc lui, je le fais revenir en fait. Je le mixe d'abord dans un premier temps, mixé dans un mixeur. Après, je le fais revenir avec un peu d'oignon, de l'ail, du gingembre. Et un peu de tomate, en fait, pour casser le côté trop pimenté de la chose. Sinon, à un moment donné, quand je le porte en ébullition sur mon four, il me fait penser un peu à la bombe lacrymogène. c'est pas respirable. Donc,
ah oui, mais dis donc. Effectivement, il envoie le tigre. Wow.
Effectivement, oui.
Ah ouais.
Oh, tu es rouge. Oh, 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 oh.
Je crois que j'en ai mis trop. Nous sommes en train de déguster un poulet maffé aux saveurs d'Aubin à Montauban. C'est qu'est-ce qu'on déguste et qu'est-ce qu'on va s'écouter, Christophe ?
De l'afrobeat. Je vous en ai parlé plus d'une fois dans qu'est-ce qu'on déguste. On va parler ce soir de la relève de Fela. Alors, petit rappel hein, pour ceux qui ne suivent pas. Entre rythme traditionnel Yoruba, jazz et funk, l'afrobeat est né grâce au génie musical du Nigérian Fela Anikulapo Kuti, qu'il a exporté dans le monde entier jusqu'en 1997, année de sa mort à Lagos. On va écouter un petit Tony Allen, effectivement, après. Plus qu'un artiste, un activiste Fela. Arrêté près de 200 fois au cours de sa vie, emprisonné, le Black President a combattu pendant 30 ans les abus de la dictature. Et la mort de Fela a laissé un grand vide que d'autres artistes sont venus combler progressivement. Par exemple, les frères Smith, un collectif d'une douzaine de musiciens qui fut l'un des premiers en France en 99. Le groupe Fenga, Montpellier aussi, qui sont très connus sur la scène afrobeat française. Et les Américains d'Antibalas, avec 5 albums brillants, qui continuent aussi de porter la parole de Fela à travers le monde. Aujourd'hui, la musique de Fela est aimée un peu partout, en France comme ailleurs dans le monde. Et la scène française reste particulièrement active, chaque ville comptant un moins en groupe local d'afrobeat. Et à Toulouse, ce sont les membres de la Soka Lakuta, du nom de la République qui avait créé Fela en scène du Nigeria. Ils organisent très souvent des concerts afrobeat. L'an dernier, un festival a même été créé. On peut les retrouver dans pas mal de manifestations culturelles toulousaines. Et enfin, on va parler de la relève directe, bien sûr, avec les deux fils de Fela. On les a déjà écoutés dans l'émission. Femi Kuti et Sheun Kuti, qui font évoluer l'afrobeat vers d'autres directions, le jazz, le hip-hop notamment. Et on va s'écouter donc Tony Allen, qui était le batteur de référence de Fela, parce qu'il y en a eu plusieurs. En plus de sa carrière solo, il a travaillé avec des artistes d'autres scènes tels que Damon Albarn, le leader de Blur, qu'il a recruté à l'époque pour son groupe The Good, The Bad and The Queen. Donc ça fait partir l'afrobeat vers d'autres dimensions un peu pop. On écoute un morceau de Tony Allen. Impec.
Tout va bien. La recette du riz, s'il te plaît. Henri, là, il est...
Le riz. Alors, la recette du riz, c'est du riz créole. Alors, vous prenez un kilo de riz que vous mettez dans un récipient. Vous le lavez pour enlever l'amidon dans un premier temps. Vous prenez votre casserole ou votre marmite. Vous le mettez au feu. Ou si vous n'avez pas de marmite et que vous le faites dans un cuiseur de riz, vous mettez votre riz à l'intérieur une fois lavé. Vous mettez 3 ou 4 cuillères à soupe d'huile dans un kilo de riz. D'accord. Pour un kilo de riz, il faut un litre d'eau. C'est le secret, en fait. Vous le portez comme ça. Et donc, là-dedans, vous prenez de la persillade que vous mettez dessus. Vous prenez... Moi, j'ai pris du cubor, là, que j'ai mis dessus en plus. Et j'ai couvert jusqu'à ce qu'il... Jusqu'à le portail d'ébullition. Jusqu'à la cuisson.
On va pas tout vous dire non plus. Vous êtes au saveur d'Aubin, avec Aubin. Et vous a déjà donné une petite... petite recette, une petite technique pour ce riz qui accompagne divinement. Alors pour moi là, le mafé, le poulet, pardon, aussi c'est ça,
le poulet
mafé. Et j'ai pas encore goûté, mais toi t'as déjà dévoré
le porc au tamarin.
Moi je vais m'atteler à ça dans quelques instants. C'est poulet mafé, porc au tamarin. Ça vient de... Toi, tu réinventes, hein, on est d'accord.
Alors,
tu,
le porc au tamarin...
Ça vient d'où, à la base?
Alors, le mafé, c'est un plat de Centrafrique, à la base. C'est-à-dire que c'est le peuple bantou qui ont toujours préparé de manière ancestrale les arachides, en fait, avec des sauces. En sauce, à la base, avec du poisson. Maintenant, on l'a retrouvé avec du poulet, de la viande, du bœuf. Et les réinventer un peu par les Sénégalais, en fait, de mafé sénégalais, où on retrouve des légumes à l'intérieur, de la tomate. Mais sinon, la base, en fait, c'est le peuple bantou, en fait, qui a migré dans le 12e siècle vers le Centrafrique, qui derrière avait une culture de faire cuire le mafé avec du poisson. Donc le mafé, je rappelle, c'est de la pâte d'arachide, en fait. C'est de la graine d'arachide cuit au sable, pilé et fait en sauce. Voilà, c'était la base.
Et avec ça, avec un petit coup de piment...
Avec un coup de piment, oui, ça va bien. Ça.
Et le porc au tamarin, c'est une invention à toi ou
c'est... Le porc au tamarin, c'est une invention à moi. Voilà. Je partais un jour dans une grande surface, je ne citerai pas le nom. J'ai trouvé du tamarin. J'en ai acheté parce qu'au départ, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien la saveur du tamarin un peu acidulé. Oui. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je peux bien faire.
Tu as trouvé une recette.
Et je vais créer une recette avec le tamarin. Voilà, parce que le tamarin, bon. C'est sucré... Acidulé, c'est très bon.
Oui, on dirait de la pâte de fruits. Hein.
Ouais. Un peu la pâte de coin.
Une pâte de coin, oui.
Oui, c'est de la pâte de tamarin.
Alors moi, je me sers, hein, excusez-moi. Du coup, j'ai un temps de retard sur vous, là. C'est tout petit chez toi, Aubin. Tu vas pas me dire que tu arrives à faire à développer ton affaire avec il y a quoi, il y a de quoi rentrer 5 tables quoi de
il y a 18 places
personnes.
Assises, ouais, effectivement, ouais. Voilà, mais voilà, c'est à dire que les saveurs de bain à la base, en fait, c'était un projet culinaire à domicile, mais comme je n'avais pas pignon sur rue, personne ne pouvait me dire, même si je mettais une annonce quelque part, viens me faire à manger chez moi. J'avais envie d'avoir un endroit où les gens ont d'abord découvert ma culture culinaire. Et après, derrière, m'invite à venir chez eux. Donc, les saveurs d'Aubin, c'est un restaurant effectivement petit, 18 places assises, mais derrière, avec beaucoup de concepts à domicile, beaucoup de concepts extérieurs. En l'occurrence, des ateliers cuisine que je fais parfois avec des personnes.
La MJC.
Voilà, avec la MJC déjà, voilà, que je peux citer ici, grâce à Stéphane Turella, que je passe à WhatsApp. Et voilà, donc je fais des ateliers cuisine, parfois des ateliers cuisine avec la MJC, mais aussi sans la MJC, avec des personnes individuelles chez elles, oui. Qui m'invitent parfois entre amis et qui j'organise en fait un atelier sur un plat qu'elles ont choisi en fait. Et j'ai aussi un concept que j'ai développé qui s'appelle le bouquet exotique, qui marche très bien en fait. Alors le concept du bouquet exotique, comme tu le vois sur ce document, c'est en fait c'est assez intéressant parce que ça devient en fait gratuit. Admettons que tu souhaites l'organiser chez toi.
Ouais.
Voilà.
Je veux le faire.
Alors pour ta compagne et pour toi, c'est gratuit, mais à une condition. il te suffit de fédérer 10 personnes autour de toi sur ce projet. C'est-à-dire que tu les invites à participer à un concept, un bouquet exotique chez toi, et que la participation de ce bouquet exotique est de 10 euros par personne. Alors, pour 10 euros par personne, je fais 2 litres de fleurs d'hibiscus, 2 litres de punch maison, ou le cocktail qu'on a bu tout à l'heure, fleurs d'hibiscus, voilà, 2 litres, des acras de morue pour le nombre de personnes qui seront présentes, 2 plats exotiques différents que toi tu choisis.
Comme ce qu'on vient de faire
Comme ce qu'on vient de faire, voilà, choisis ces 2 plats et les accompagnements. Donc, je peux livrer en fait gratuitement sur 15 km autour de mon restaurant. Dépasser les 15 km, je demande une participation de 10 euros pour le carburant. Donc, c'est vraiment ce concept en fait qui aujourd'hui représente 70% de mon activité ici.
Ah oui, 70% de l'activité quand même, déjà.
Effectivement, voilà.
Tu as beaucoup voyagé, Pascal, toi?
Ça m'est arrivé.
T'es parti en Afrique?
Les plusieurs fois, oui. Pourquoi?
Je sais pas. Parce que comme tu travailles jamais dans cette émission, il faut bien à un moment que tu nous donnes une recette de quelque chose que tu as goûté là-bas.
Arrête, alors, te goûter frais, travaille.
Voilà, non, là, une recette que j'ai envie là de donner, c'est parce que c'est une recette de maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce sont des beignets de fleurs d'acacia, une tempura de fleurs d'acacia.
Les acacias, rien à voir avec l'Afrique, on en a mangé l'autre jour. Là, tiens.
Non, mais c'est maintenant, parce que c'est une recette de actuellement. Bon, alors c'est vrai qu'avec la pluie, les fleurs d'acacia, elles passent relativement vite.
Elles sont par terre.
Mais on en trouve encore. J'ai trouvé des acacias dimanche qui sont avec des fleurs, avec des grappes vraiment charnues, belles, etc. Comment on fait? On ramasse les fleurs d'acacia. Donc c'est des bouquets, c'est des grappes de fleurs. On revient chez soi, on les secoue un peu, on les nettoie, et on va faire une tempura. Une tempura, en fait, c'est un beignet à la mode japonaise, c'est un beignet, mais très léger. Pour faire la pâte à tempura, on prend temps pour temps, c'est-à-dire on prend 100 grammes de farine de blé, 100 grammes de farine de riz, et on ajoute comme liquide de l'eau gazeuse glacée. Alors, il est important que ça soit vraiment glacé. Vous achetez votre bouteille d'eau gazeuse, non sucrée bien entendu, vous la mettez au congélateur pendant 1 heure, et presque quand elle va commencer à devenir glace, là elle est bien. Vous mélangez votre farine, donc 100 grammes de farine ou de blé et 100 grammes de farine de riz. Vous mélangez, vous mettez un peu de sel, vous rajoutez votre eau gazeuse glacée, et très peu, de façon à faire une pâte relativement épaisse. Vous prenez vos fleurs d'acacia, vous les trempez dans cette pâte. À part, vous avez fait chauffer de l'huile dans une friteuse à 180 degrés, et vous plongez vos fleurs d'acacia, vos bouquets d'acacia dans la friture. Ça prend, je sais pas, 1 minute de cuisson à peu près. Vous les sortez, vous les égouttez. Donc là, il faut mettre du papier absorbant tout plein parce que c'est relativement gras. Et vous sucrez et vous dégustez chaud. C'est un régal. C'est quelque chose qui est magnifique. L'acacia étant légèrement sucré, c'est d'une finesse extraordinaire. Alors, par rapport à une pâte à beignet normale qui a tendance à alourdir, là, la tempura, donc farine de blé, farine de riz, c'est quelque chose qui va complètement alléger. C'est un beignet très, très léger, très aérien, avec ce petit goût d'acacia derrière, c'est somptueux. C'est maintenant qu'il faut le faire, parce que dans une semaine, il n'y a plus de fleurs d'acacia.
Contrebassiste Avishai Cohen. Thank you. Shai Cohen, bon, et qui est considéré comme un des plus grands contrebassistes du monde. En tant que leader de ses propres projets depuis 20 ans, il a traversé ses nombreux concerts avec Chick Corea dans ses débuts. C'est le poulet m'a fait. C'est cependant en tant que...
Qu'est-ce que le poulet m'a fait
C'est cependant en tant que compositeur que sa personnalité musicale s'est développée grâce à de riches compositions avec des voix en hébreu, en espagnol, en latino qui combinent ses racines israéliennes, orientales avec son fond de jazz contemporain. Là, on l'entend dans ce morceau qui s'appelle d'ailleurs Madrid. Il a entre-temps signé chez le label Blue Note, qui est un des plus célèbres labels de jazz. Et maintenant, son nouveau projet, c'est Avishai Cohen with String, avec cordes, c'est-à-dire c'est le point culminant de son voyage musical, rencontre de deux mondes entre la musique classique et le jazz.
Qu'est-ce qu'on déguste aux saveurs d'Aubin? Donc, porc au tamarin. Le tamarin, c'est une drôle de bestiole, quoi. Ça se trouve où c'est quoi cet appareil? Dis-moi.
Alors, le tamarin, c'est un fruit exotique, en fait. C'est un fruit qui est assez acidulé. Voilà, il se casse facilement. Et à l'intérieur,
ça pourrait ressembler comme une grosse cacahuète, quoi. Où il y aurait 3 ou 4 fruits à l'intérieur au lieu d'avoir que deux fruits.
Oui, hein, voilà, effectivement, ça ressemblerait à une cacahuète ou je dirais plus à un haricot géant, voilà, qui se casse facilement. Et derrière, en fait, il y a à l'intérieur une pâte, en fait, c'est la chair du tamarin avec un noyau. Et c'est cette chair que j'extrais pour faire la sauce du tamarin.
Ça ressemblerait à une date.
Voilà, un peu plus à une date. Ouais.
Hein? Très sucré.
Oui, très sucré, acidulé. Ouais. Et vraiment, j'ai voulu faire un test. J'ai d'abord essayé avec des crevettes. Il passait pas du tout. Et avec de la viande, ce petit côté acidulé, en fait, à faire ressortir vraiment le but de ma recherche, en fait.
Ouais. Et c'est bien joué. Alors, c'est un produit que l'on connaît pour ses propriétés pharmaceutiques et pour le transit intestinal, on va dire.
Effectivement.
Donc, ouais, c'est à utiliser avec...
Parcimonie.
Voilà, il faut savoir le faire, quoi. Parce que sinon,
effectivement, voilà. Parce qu'en fait, le porc au tamarin, il a un côté diurétique et il permet aussi un bon transit, en fait. Donc, en l'occurrence, le plus souvent, il est servi en boisson. Pour faire l'effet escompté, en fait.
Quand on vient chez toi, Aubin, on vient manger du poulet mafé, on vient manger du porc au tamarin. Qu'est-ce qu'on vient manger d'autre?
Alors, on vient manger un panel de saveurs. On vient voyager, en fait. C'est-à-dire que quand on rentre dans la porte des saveurs d'Aubin, on voyage, en fait.
D'abord, ça sent bon, parce qu'il y a toujours une odeur qui... te force à t'asseoir, te mettre à table et de dire « ça va être bon ».
Un parfum, voilà. Et en fait, les saveurs de bain, c'est tous les jours, en fait, 3 saveurs, 3 propositions différentes. C'est-à-dire, tous les jours, 3 plats exotiques différents. Une carte, comme dans tous les restaurants. Mais voilà, je ne voulais pas faire un restaurant où je suis très porté sur une carte. J'aime toujours proposer, en fait, la diversité. C'est-à-dire, aux saveurs de bain, vous venez du mardi au samedi, vous pouvez goûter plusieurs saveurs différentes.
Parce que tous les jours, vous
ne mangerez jamais la même chose, voilà.
Le poulet rôti, saveur d'Afrique.
Oui.
C'est quoi? Comment c'est ça?
Alors, le poulet rôti, saveur d'Afrique, je vais un peu parler comme les jeunes, c'est une tuerie.
Sandek.
En fait, c'est un poulet que je vais faire revenir, en fait, dans un torchon avec du sel, du gros sel. Donc, une première cuisson dans un torchon. Et après, quand la cuisson en fait avec du gros sel est faite, je le trempe dans le lot que j'ai fait revenir avec du laurier, avec d'autres saveurs, un peu de gingembre, je le trempe dedans et je le mets à rôtir en fait pendant 20 minutes à 300 degrés dans un four halogène. Et le résultat est sans appel.
Vous avez un calepin pas loin de vous, chopez-le, un petit stylo, attrapez-le, notez 06 58 74 14 02, c'est le numéro des saveurs d'Aubin, ce petit resto situé 96 avenue Aristide Briand, tenu par Aubin, spécialité afro-antillaise. C'est de là qu'on vous parle, monsieur, dame, aujourd'hui, c'est de là qu'on vous parle entre deux bouchées de porc au tamarin, de poulet au mafé, de ces petites milliardises dont on vous a pas parlé mais qu'on a démarré avant l'émission.
Il y avait des trios de croustillants de crevettes, des acras de morue.
Voilà, et puis ce qu'il n'y a plus dans mon verre et que j'espère bien qu'il va y avoir sur le prochain temps le temps de lancer la pub, c'est quoi? C'était un petit peu de rhum avec des choses comme ça.
Un rhum gingembre, voilà.
Un rhum gingembre.
Et après, vous avez aussi goûté tout à l'heure un cocktail en fait de fleurs d'hibiscus, litchi et mangue.
Voilà. Fleurs d'hibiscus, litchi et mangue. Pas non. Un gramme d'alcool là-dedans.
Non alcoolisé.
Non alcoolisé.
Pas, et c'est très très bon.
Mais c'est une gageure à qu'est-ce qu'on déguste.
Oui. Pas poussé non plus.
Pas poussé non plus. Et puis, on l'a bu avec modération. Hein.
On boit toujours tout avec modération. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite, juste après ça. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors si vous prenez le train en marche, bah, tout va bien, vous êtes installé avec nous autour de cette petite table, on est au Saveur d'Aubin à Montauban, c'est 96 avenue Aristide Briand, c'est l'avenue Aristide Briand, une rue qui a de l'autre côté du Pont Vieux quand vous êtes à Montauban, je le disais tout à l'heure, hein, vous cherchez le musée Ingres, juste à côté du musée Ingres il y a le Pont Vieux, vous prenez le Pont Vieux direction la gare, et là juste avant la piscine sur votre gauche, eh ben, vous avez les Saveurs d'Aubin, tout petit restaurant 20-25 mètres carrés, mais c'est pas de toute manière, c'est juste la vitrine d'Aubin en fait, c'est juste pour comme il nous l'a expliqué déjà plus tôt dans cette émission, mettre en avant le savoir-faire.
Faire culinaire. Alors,
c'est tout petit, mais c'est très grand par les saveurs et par la générosité du cœur d'Aubin.
Oui. Dans cette dernière partie d'émission, on arrive au dessert, donc on a de très beaux desserts posés devant moi. Tu nous les présentes,
effectivement,
Robert ?
Oui. Alors, donc, le premier dessert, c'est un mi-cuit au chocolat accompagné d'une poêlée de fruits exotiques. Alors, le second plat, c'est un sablé mangue, le second dessert. Le troisième, c'est un mi-cuit cœur caramélisé au sel de Guérande. Et le quatrième dessert ici, c'est un panna cotta sur une lit de spéculoos framboise.
D'accord, donc là on n'est pas forcément dans des saveurs africaines.
Oui, hein, on est dans la visite, dans le.
Voilà, là
le
on est
de
dans,
tous
des,
les restaurants
dans,
qui
dans des. Voilà.
Des saveurs en fait.
Dans des desserts connus de voilà. Tous les restos, quoi. Petite touche de caramel là-dessus, c'est
oui.
Ça
effectivement, oui.
Je goûte au passage. C'est ça.
Voilà. Lèche pas le plat.
Pat, tu n'as pas. De dessert. J'ai l'impression qu'en fait, à part les fruits, finalement, et à part dans les pays du Maghreb, les pays d'Afrique du Nord, qui sont eux très gâteaux, vachement au miel,
pâtisserie
etc., les pâtisseries
oui.
Pâtisserie orientales, oui. L'Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest, a pas vraiment de dessert, j'ai l'impression.
Si, on a beaucoup de desserts, voilà, mais après derrière, c'est, je les ai ici à l'ouverture, on a le déguet par exemple, qui est un lait caillé accompagné de mille. Ça n'a pas plu aux clients.
C'est trop particulier.
Alors après, on a du lait de chèvre avec un peu de mouche. Non, je déconne. Là, mais voilà, truc trop exotique.
Voilà, c'est-à-dire que...
Trop d'exotisme tue l'exotisme.
Trop d'exotisme tue l'exotisme. Il fallait faire, en fait, pour... Moi, j'ai accroché mes clients en faisant un mariage entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est un peu... Il ne faut pas trop emmener les gens dans l'inconnu. L'inconnu fait toujours peur, en fait.
Et alors, du coup, quand même, sur ces desserts, tu es sur du... Pré-préparé ou c'est toi qui fabrique quand même?
Non. Voilà, je suis du pré-préparé parce qu'en fait, j'essaye le plus souvent, comme on voit un sablé mangue, j'essaye toujours de chercher en fait tout ce qui se fait de plus exotisme dans des produits comme ça en fait. C'est-à-dire que le dessert, c'est toujours la touche finale des restaurants. Et quand on part avec un mauvais dessert, ça peut casser tout ce qui s'est fait de très bon en amont. Et donc, j'ai voulu en fait laisser aussi là les personnes qui ont un vrai savoir-faire là-dedans et proposer des desserts exotiques, mais avec le savoir-faire de ces personnes. C'est-à-dire
d'accord.
Qu'un dessert, j'essaye toujours de me référencer chez les très bons fournisseurs.
D'accord.
Des desserts, oui. Donc, la seule chose que je fais ici, je rappelle, c'est la poêlée de fruits exotiques que vous verrez là en fait.
Ça va?
Oui.
Ok, moi je vais rester sérieux. On peut voir rien.
Quand tu fais beaucoup de déplacements dans le domicile pour les personnes, des repas pour 20, 30, 40 ou voire plus de personnes.
Effectivement.
Qu'est-ce qu'il faut considérer? Il faut te prévenir à l'avance, savoir les tarifs que ça coûte, comment on procède?
Alors donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, pour rendre accessible cette cuisine au plus grand nombre de personnes, j'ai mis en place, comme je le disais plus haut, les concepts à domicile. Et donc, dans ces concepts à domicile, je tenais à le rappeler, il y avait le bouquet exotique, qui lui, en fait, est gratuit pour les deux organisateurs et payant pour les 10 personnes. Donc, c'est 10 payants pour 2 gratuités. En gros, comment ça marche? C'est-à-dire que c'est 10 euros par personne.
Oui. Et... Non, mais si tu fais plus, par exemple, si on veut te faire venir pour 40 personnes, 40 est-ce personnes. Que c'est possible?
C'est possible, voilà.
Est-ce
oui,
que tu as un site internet ou comment ça fonctionne?
Pour le moment, j'ai une page Facebook qui s'appelle Les Saveurs de Bas, que vous pouvez aller voir, en fait. Où derrière, j'essaye de filmer certains plats que je prépare habituellement ici. Et sur cette page Facebook, vous verrez aussi mes concepts. Mais sur l'organisation, pour revenir tantôt à ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'organisation du nombre de personnes par rapport au plat, j'essaye toujours de me référencer en fait au concept à domicile. Pourquoi ? Parce que sur le bouquet exotique, en fait, ça répond vraiment à une attente d'invitation. Vous avez la boisson dedans compris, les acras de morue, 2 plats exotiques différents. Comme ça laisse un large choix aux personnes de goûter des saveurs différentes, en fait.
D'accord.
Alors... Et la cocotte à domicile ?
Alors, la cocotte à domicile, c'est un concept, en fait, c'est, je dirais, en fait, dressez votre table et je vous apporte le repas. Alors, vous invitez des amis chez vous, vous ne savez pas ce qu'il faut faire à manger, vous m'appelez, je vous envoie un mail. Dans ce mail, il y a 30 plats exotiques différents. Vous choisissez le plat que vous souhaitez, je vous le prépare pour 6 personnes, avec l'accompagnement pour 6 personnes, et 2 litres d'un cocktail pour 50 euros.
D'accord. Oui. Cocktail à base de rhum, à base de bissap, à base.
Alors, il y a fleur d'hibiscus dans un premier temps, parce que là, c'est cocktail non alcoolisé, vu le prix, en fait.
Ouais,
c'est
ouais.
Fleur d'hibiscus, tout simplement, en fait. Ou cocktail, fleur d'hibiscus, litchi, mangue.
D'accord. Et si on veut un punch, c'est.
Si vous voulez un punch, après, voilà, vous pouvez faire. Ou sinon, vous pouvez remplacer les 2 litres de ce jus par 1 litre de punch maison.
Je te donne les 2 litres de fleurs d'hibiscus et tu me rends
le punch.
Le litre de punch. Eh, hey, c'est pas con, ça, c'est bien ça.
Donc 6 personnes, 50 euros.
6 personnes, 50 euros et une boisson avec.
Une boisson et un plat ou 2 plats
Non, là c'est un plat sur la cocotte à
l'hibiscus. Parce que j'allais te dire, mais comment tu t'en sors? Ça fait pas cher.
Voilà, c'est d'abord dans un premier temps pour me connaître. Et ça me permet en fait une bonne gestion de mes ratios en fait. Voilà. En l'occurrence, aux saveurs de bain, ce que je tenais à vous le dire, c'est que je n'ai pas forcément de perte alimentaire. Parce que vu les tarifs que je propose en fait, j'ai toujours, et les concepts que je mets en place, j'ai toujours de quoi vider mon...
Il n'y a pas de
voilà.
perte.
Il n'y a pas de perte, voilà. C'est...
Ouais, c'est intéressant.
Mais ça fait 8,50 par personne.
C'est de la bonne gestion.
Voilà. Oui.
Et au bain, c'est l'heure dans Qu'est-ce qu'on déguste, qu'on écoute ta musique. Qu'est-ce qu'on écoute?
Alors aujourd'hui on va écouter une musique qui m'est chère au cœur parce que ça me fait penser à mon pays le Gabon. Et c'est chanté par Annie-Fleur Bacchelili et la chanson c'est Je t'invite. C'est Je t'invite à venir au Gabon.
Annie-Fleur Bacchelili, moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer. C'est une grande...
Azar.
Ouais, sur Afrique Ajar, elle est venue il y a 2-3 ans sur Afrique Ajar. Et déjà, à l'époque, on disait d'elle, c'est quelqu'un qui est très connu en Afrique, en fait, et beaucoup moins en Europe. Mais c'est déjà quelqu'un, il y a 2-3 ans, qui était vraiment en train d'exploser au niveau international. Et je pense qu'il n'y a encore qu'en France qu'elle est encore un petit peu méconnue, mais partout dans le monde, cette bonne femme cartonne. Et écoute, tu vas comprendre pourquoi.
Ok.
Nerf en couleur, t'invitant au Gabon.
La chanson, c'est « Je t'invite » d'Annie-Flore Batchelili. C'est une invitation à voyager au Gabon, en fait. C'est un voyage musical intéressant. Ça me berce parce que ça me fait penser à des années où j'ai passé les meilleurs moments de ma vie, en fait, au bord de la mer. C'était génial.
Aubin, des saveurs d'Aubin, ce petit resto depuis lequel nous vous parlons, qui a choisi de nous faire écouter Annie-Flore Batchelili. Le Gabon, c'est comment ? Maintenant, alors, tu y retournes de temps en temps ?
Oui, je retourne. Je suis retourné il y a de cela un an aujourd'hui. Voilà.
C'est stable aujourd'hui comme pays ? C'est comment ? Parce qu'avec l'Afrique, des fois, on
c'est discutable. C'est-à-dire que le Gabon, en fait, c'est un peu placé pacifique. Déjà, c'est pas un peuple qui aime la guerre. Mais après, derrière, c'est vrai que politiquement parlant, ça reste.
C'est instable.
C'est, je dirais pas instable, mais c'est pas très sain, en fait. C'est, à l'époque, on avait un président. Il est décédé et son fils a pris le pouvoir. C'est un peu comme un royaume maintenant. Quoi.
Est-ce qu'il y a des antagonismes ou des animosités entre toutes les ethnies du Gabon, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies au Gabon. Comment ça fonctionne tout ça? Parce qu'en fait, le Gabon, c'est un pays qui a été créé par les Européens.
Oui.
Ça doit être le traité de Berlin en 1895 ou un truc comme ça. Donc, un traité
de trucs qu'ils ont fait à la règle.
Voilà, on a taillé dans les colonies, dans la forêt, autres, etc. Et comment toutes ces ethnies vivent ensemble?
En fait, la cohabitation ethnique a toujours été bien. Parce que le Gabon, en fait, comme je disais, c'est un peuple très pacifique. Et le feu président Bongo, en fait, il essayait de faire une géopolitique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les deux ans, tous les trois ans, en fait, comme il y a 9 provinces au Gabon, c'était une personne d'une province qui occupait le second poste, le poste de premier ministre.
Ça tournait,
voilà. C'est autant sur les postes stratégiques, voilà. Ça a toujours été une bonne entente. Les Gabonais s'entendent très bien, en fait. Ouais, voilà. C'est vrai.
À la fois entre ceux des hauts plateaux ou de la forêt et ceux de la côte.
Oui, effectivement.
Ça marche.
Oui, ça marche très bien. Ça marche très bien. De toute façon, on n'a pas de problème de mariage entre ethnies là-bas. Ça se fait facilement, en fait.
Est-ce qu'il y a ça se touche avec le Centrafrique ou pas? Parce qu'il y a les Bantous, il y en a au Gabon et il y en a en Centrafrique aussi.
Oui, voilà. Hein, c'est pour revenir, en fait, si vous voulez, à l'histoire du Gabon, en fait.
Je dis ça parce qu'en Centrafrique, ça craint en ce moment. Ça chauffe un peu, là, non?
Oui, ça chauffe. Parce qu'en fait, le Centrafrique, ils sont rentrés en guerre depuis un bon bout de temps. C'était d'abord pour faire partir le feu président, qui lui derrière avait sémé un peu beaucoup de troubles, d'abord de troubles ethniques, voilà. Après, on n'a pas le même problème au Gabon. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, Bongo, il avait pratiqué une politique en fait qui tenait à faire tourner, à faire travailler tout le monde en fait, occuper des postes stratégiques. Donc
il payait tout le monde. Tout le monde était content.
Voilà, c'est-à-dire que voilà. Donc on a toujours connu en fait cette relation un peu de cohabitation entre ethnies. Après, c'est pas un pays aussi où il y a énormément d'habitants. C'est 1 200 000 personnes. Voilà, pour 267.
C'est la Belgique africaine.
267 kilomètres carrés. C'est voilà. Mais là où je déplore un peu ce pays, c'est parce que c'est un pays très riche, mais avec des richesses très mal reparties. Donc,
ah bah tiens, justement,
en Afrique apparemment.
En parlant de richesses très mal réparties, saviez-vous, mon cher Robin, mes chers auditeurs, mon cher Pascal,
et je ne savais pas,
que le Nigeria est le deuxième pays au monde.
Tout à fait.
Consommateur
juste
de
derrière
champagne.
La France.
Truc de dingue.
Le pays est l'un de ceux donc où la consommation de champagne augmente le plus rapidement. Quelques 45 millions d'euros y ont été consacrés en 2012. 45 millions d'euros de consommation de champagne, quand même. Un chiffre en augmentation par rapport à 2011. Et ça va même atteindre 81 millions d'euros en 2017. Et de telles dépenses à champagne peuvent sembler d'autant plus frappantes que d'après les chiffres de la Banque mondiale, 63% des Nigérians vivent avec $1 par jour ou moins. Donc il y a un écart entre la population énorme. Donc l'explication c'est quoi ? Ben, ceux qui ont de l'argent là-bas en ont vraiment beaucoup, contrairement aux autres qui n'ont rien. Et le cas du Nigeria est celui d'une société donc très divisée, une grande partie de la population appartenant à la classe ouvrière. De son côté, l'élite a les moyens de s'offrir les choses les plus extravagantes. Hein. Les rois du pétrole, parce qu'il y a beaucoup de pétrole au Nigeria, et les stars de Nollywood, cette prolifique industrie cinématographique nigériane, ils sont en quête de reconnaissance sociale et donc, bien entendu, ils boivent du champagne, comme nous, du Perrier, ça y va à foison. À tel point donc que le Nigeria, qui est quand même le pays le plus peuplé d'Afrique, hein, ça s'explique aussi par rapport au nombre d'habitants, il y a 160 millions d'habitants au Nigeria, c'est donc un des marchés les plus importants pour l'avenir du champagne, juste derrière la France. Mais ça c'est le paradoxe africain, on va dire.
Avec Aurélien, quand on veut aller manger au resto entre midi et deux, notre patron, dans sa grande mansuétude, ne donne pas, mais nous dans l'entreprise, comme dans beaucoup d'entreprises, t'achètes des tickets resto, ton patron t'en paye généralement la moitié, voilà. Enfin, en tout cas, nous c'est comme ça que ça se passe à CFM. Il y a des entreprises qui n'ont pas ce système-là, et toi, t'as bossé, c'est ça ton ancien métier en fait, hein, t'es déjà un peu dans le marketing quand même, à la base.
Créer et donc, des produits,
toi, t'as,
pour les mettre à la vente.
T'as essayé d'imaginer un truc en plus pour vendre les saveurs d'Aubin. Raconte-moi ce paquet de tickets resto qu'on a là.
Effectivement, voilà. Alors, les tickets cadeaux restaurant me viennent en fait, l'idée est tout bête en fait. C'est-à-dire qu'un jour, il y a deux clients qui sont arrivés. Et je les entendais parler du fait que c'est un peu dommage si on paye à notre ami un repas, il ne viendra pas parce qu'on le lui a payé. Je suis rentré chez moi et j'ai creusé, je me suis dit mais comment ne pas faire quelque chose qui peut devenir un cadeau en fait. Voilà, c'est-à-dire que des gens viennent chez moi pour découvrir les saveurs, ils veulent en faire découvrir, ça peut être un événement marquant, l'anniversaire de quelqu'un, et pourquoi ne pas l'offrir une table aux saveurs de bain. Donc j'ai mis en place des tickets cadeaux restaurant, comme son nom l'indique. Alors, il y a deux valeurs faciales. La première, il n'y a pas le prix écrit dessus. Donc c'est écrit, deux apéritifs, deux plats, et celui-ci il a une valeur de 15 euros, et c'est valable pour deux personnes sur toute ma carte, que ça soit boisson ou plat. Donc pour 15 euros, ça permet aux gens qui ont envie d'essayer et qui n'osent pas d'essayer les saveurs, voilà. Et le second, en fait,
pour 15 euros, ça fait carrément du 50%.
Ça fait du 50%, c'est-à-dire que la personne, en fait, par rapport au prix de la carte, on économise pratiquement 60% du prix de la carte.
Hein. Ouais.
C'est-à-dire que, admettons que vous
avez... T'es vraiment là sur du marketing découvert, c'est-à-dire que plutôt que de te payer de la pub, des 4x3, des machins, tu t'es dit, tiens, je vais faire ça, et ça, c'est ta pub, finalement.
Et ça, c'est ma pub, voilà, c'est ma manière à moi de communiquer.
Tu comptes sur le fait que quand les gens viennent, tu vas pas te louper, ça va être bon, et donc ils vont revenir et ils vont en parler à leurs amis.
Voilà, effectivement, voilà. Parti comme ça au départ, c'était pris comme ticket cadeau. Les gens les achetaient, ils offraient à des amis. Mmh. Et après, ils ont commencé à l'acheter, en fait, et l'intégrer dans leur consommation quotidienne professionnelle. Donc, à défaut de me présenter un ticket restaurant, ce ticket restaurant peut s'acheter, par exemple, quand vous arrivez au restaurant, vous pouvez venir l'acheter à midi et l'utiliser le soir. Donc parfois.
Mais oui, parce que quand je te disais, non mais c'est pas con, parce que regarde, quand je te disais qu'avec Aurélien, nous, notre ticket resto, on en paye 50%. Hein, c'est ça, Aurélien. Et l'autre patron, il en paye 50%. Ben là, tu payes 50% aussi finalement, puisque tu payes le prix d'un repas et d'un apéritif pour deux repas, deux apéritifs. Et ça, on peut revenir en acheter autant de fois qu'on veut.
Oui, on peut acheter autant de fois qu'on veut. Il y a des personnes qui aujourd'hui l'achètent et qui D'accord. l'utilisent tous les midis, en fait. Ils me le tendent, en fait, quand ils viennent le midi, ils sont à deux et parfois ils font les tours pour se l'acheter, en fait. Et après, derrière, toujours dans le même esprit, il y a toujours un ticket restaurant, ticket cadeau restaurant. Il y a celui pour deux menus avec deux apéritifs, deux plats et deux desserts à 24,50€. Donc c'est aussi, ça représente aussi 60% du prix affiché sur ma carte.
On voit que tu as bossé dans le marketing. Hein.
Hein, on voit quand même. Hein.
Oui.
Ça, plus le Facebook, plus la participation à Qu'est-ce qu'on déguste.
Le bouche à oreille.
Plus, évidemment, la meilleure des coms, le bouche à oreille.
Le bouche à oreille, effectivement. Voilà. Au départ, quand je suis parti, Montauban, c'était une ville en fait où je ne connaissais personne en fait. Donc du coup, quand je me suis installé pour ouvrir le restaurant, il fallait que je propose quelque chose qui marque les personnes qui viennent. Donc au départ, je commençais à vendre les papillotes exotiques du capitaine et du gambas.
Ah tiens, papillotes. Ça m'intéresse là parce que quand je suis venu, j'ai vu ça, papillotes. Et tu sais, papillotes, on a cette image nous ici de ce poisson mis dans du papier alu, tu vois. Oui. Tu les as vus, ces papillotes? Est-ce que tu as déjà vu les papillotes de bain?
Oui,
raconte comment elles sont, les papillotes de bain.
Elles sont dans de la feuille de
banane.
Bananier, dans des feuilles de bananier, bien empaquetées, et comme ça doit se faire. Et alors là, il n'y a pas de problème avec la lumine, le machin, le truc comme ça. Et ça donne un goût, en plus, ça cuit bien.
Effectivement,
ça
voilà.
Donne un goût.
C'est-à-dire que la cuisson faite à la feuille de banane, en fait, permet une cuisson non seulement homogène des produits qui sont à l'intérieur, mais en plus, ça restitue un goût de nature, un parfum de plante. En l'occurrence, moi, les papillotes, je les fais avec un poisson qu'on appelle le capitaine.
Alors, c'est quoi le capitaine? Le fameux capitaine Haddock.
Alors, le capitaine, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. D'aucuns disent le capitaine, c'est le nom qu'on a donné ça c'est l'anecdote, en fait, de tout. Le capitaine, c'est le nom qu'on a donné au poisson qui résistait, en fait, quand les pêcheurs revenaient de la pêche. Le dernier à vivre s'appelait le capitaine. Il y a d'autres qui disent que c'était un colon, à l'époque de la colonisation, en fait, qui pêchait un poisson et qui, derrière, se posait la question de savoir, mais pourquoi je tombe toujours dessus? Et comme c'était un capitaine, ce monsieur, on l'appelait ce poisson le capitaine.
Alors, est-ce que c'est un poisson d'eau douce ou un poisson de mer? Parce que moi, j'ai mangé du capitaine, mais sur le Niger.
Oui, c'est un poisson d'eau douce, en fait.
C'est un poisson d'eau douce.
Oui, c'est un poisson d'eau douce, le capitaine, en fait. C'est un poisson, il s'assimile un peu en chair à du cabillaud, mais avec un peu plus de goût, en fait, un peu plus prononcé, en fait. Et c'est un poisson à chair blanche, très crémeux à la texture. En papillote, il donne l'envie d'y revenir, en fait.
À déguster, donc, le capitaine en papillote aux saveurs d'Aubin. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire dans cette heure et demie qu'on vient de passer ensemble, Aubin, et qui serait important de rappeler aux auditeurs, à tes futurs clients?
Voilà, on a oublié, en parlant des plats en fait, de mettre en avant que il faudrait qu'on essaye de dénaturiser dans nos têtes l'esprit de la cuisine africaine piquante. C'est-à-dire qu'aux saveurs d'Aubin, quand on vient pour manger, on découvre des nouvelles saveurs qu'on ne connaît pas, des saveurs dont on a déjà entendu parler, mais qu'on n'a jamais parfois testé en bouche. Et le piment est servi, en fait, à côté. C'est le piment, en fait, c'est-à-dire que tous mes clients qui viennent, en fait, rajoutent le piment à leur guise. Le piment n'est pas mis dans mes plats. Donc, si vous venez aux saveurs d'Aubin, pour découvrir des nouvelles saveurs, vous allez trouver effectivement ces saveurs. Et le côté pimenté, en fait, sera comme quand vous partez chez un concessionnaire et que vous achetez une voiture, il vous met en option le lève-vitre électrique.
Voilà. C'est à part et c'est pas fort du tout. N'ayez pas peur. C'est tout à fait mangeable pour un palais de blanc européen.
Effectivement, voilà, je voulais signaler ça aussi, que 99% de ma clientèle, en fait, est blanche et européenne.
Voilà. Est-ce qu'on a fait toutes les chroniques jazz? Oui. On aurait pu en faire plus.
On aurait pu en faire plus comme d'habitude.
Ah non.
Le roi du piment.
Point trop d'infos. Il a mangé au moins 4 cuillerées à café de piment.
Là, tu exagères.
Il n'est pas rouge, il n'est pas blanc, il est normal.
Il n'a pas bougé.
Donc, je ne sais pas comment il fait.
Eh ben voilà, on a fait quand même quelques. C'est un resto de plus en extérieur. Je les compte plus à force parce qu'on commence à en avoir fait quelques-uns. Hein. On va pas s'arrêter là d'ailleurs, on continuera. Mais c'est une belle rencontre. Merci Aubin de nous avoir accueillis ici.
Mais je vous remercie.
Tu comptes tu restes comme ça. Tu préfères travailler sur le truc à domicile ou est-ce que un jour tu comptes avoir plus d'espace dans ton resto? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages peut-être un jour?
Non, aujourd'hui en fait, je veux développer en fait d'abord le restaurant en fait comme ça parce que c'est aussi un défi que je me mets en fait, c'est prouver tôt ou tard si un jour je compte mettre en place des franchises, qu'une personne peut travailler seule, générer un chiffre d'affaires et en même temps mettre en place une hygiène de vie, celle que je n'avais pas en amont et que je réussis à avoir grâce au concept que je mets en place.
Ah, oui, donc tu cherches le concept de la franchise totale, d'accord.
Ouais, non, mais t'es tout seul, tu veux avoir effectivement une hygiène de vie avec ta famille et tout ça. Il est en train de prouver que ça peut marcher.
Oui, ça peut marcher. Ça marche.
Ouais. Mais parce que quand tu fais du domicile, tu es fermé le soir ici.
Oui, quand je fais le domicile et les ateliers cuisine, j'ai écrit en atelier cuisine ou...
Oui. Merci Aubin de nous avoir reçus. Bon anniversaire aussi.
Merci. Bon anniversaire à toi.
Merci CFM pour ce moment passé sur ma table. Et je vous remercie.
Un vrai plaisir. Merci. C'était Qu'est-ce qu'on déguste depuis le 96 avenue Aristide Briand, les saveurs d'Aubin, spécialité afro-antillaise. Tout est sur le blog qu'est-ce qu'on déguste.com, cfmradio.fr. Le numéro de téléphone, je vous le donne quand même au passage, même si je sais que vous allez venir sur notre page Facebook pour nous dire j'ai pas retenu le numéro de téléphone. Allez, 06 58 74 14 02. Voilà, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on déguste est ailleurs, autre part, avec d'autres gens, sur d'autres univers, en goûtant de nouvelles choses.
Et ça ira comme ça.
Parce que nos papilles, à force, elles fatiguent, tu vois, mon gars. Allez, salut.
Oh bon. You lie to me.